Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Alors avant une approche géographique de la cybercriminalité qui va donc nous intéresser toute cette matinée, permettez-moi de vous apporter quelques repères chronologiques sur le phénomène de criminalité internationale en réseau. Et vous m'envoyez désolé à mon grand regret de vous informer, chers congressistes, du caractère ancien de cette manifestation des humanités. Alors sans remonter jusqu'aux périodes antiques, je ne suis qu'un modeste technicien de l'histoire coloniale occidentale, eh bien intéressons-nous à cette période où les mondes connus et inconnus vont commencer à s'interconnecter. Ce temps où les hommes et les distances passent de l'inconnu au mesurable, où la circulation des hommes, des biens et des idées émerge, puis fusionne, et on a envie de dire pour le meilleur et pour le pire. Alors la thématique qui nous intéresse ce matin concerne l'un des aspects de ce pire. Quelles étaient les formes de criminalité en réseau durant le XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle? Quelle pouvait être l'étendue de ces réseaux? Et quelles étaient leurs capacités de nuisance pour les États et les individus? Alors méthodologiquement, nous allons adopter la méthode du philosophe Plotin en se débarrassant des lourdeurs matérielles, sensibles, sans lesquelles cette approche semblerait anachronique et engluée. Nous devrons tendre vers ce difficile effort d'abstraction et il nous donnera à contempler dans sa pureté absolue la notion de criminalité, autrement dit d'accéder au plan global et détaillé de la réalité tout entière. Et donc pour paraphraser ce philosophe du IIIe siècle après Jésus-Christ, laissons le phénomène de criminalité organisée venir à nous et non aller à lui, sorte de mysticisme rationnel illustré par la piraterie. Alors, première approche, une approche sémantique, parce que parler de cybercriminalité au XVIe siècle relève un peu parfois de la gageure. Dans sa définition la plus large, la cybercriminalité regroupe toutes les infractions pénales susceptibles de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau. Donc, si l'on reprend cette définition, on observe donc que la cybercriminalité est une nouvelle forme de délinquance. Elle se distingue des formes traditionnelles pour se situer dans un espace nouveau, le cyberespace. Autrement dit, une nouvelle forme de délinquance émerge des formes traditionnelles de criminalité pour se situer dans un espace nouveau, la planète, le monde. Or, à partir de quand dans l'histoire y a-t-il une prise de conscience du monde? Un nouveau réseau de communication sur de grandes distances apparaît à partir de 1492, celui des bateaux de liaison transatlantique, de bateaux qui font des liaisons transpacifiques faisant le tour du monde en emportant les biens, les hommes, les idées et aussi les larcins. Une fois la colonisation des nouveaux espaces suffisamment stabilisée, c'est-à-dire vers le XVIe siècle, eh bien ces colonies, loin de leurs métropoles qui sont souvent oublieuses, vont s'interconnecter entre elles à nouveau pour le meilleur, à savoir des partages d'expériences, d'expériences culturelles, alimentaires, une culture militaire également, mais aussi pour le pire, la guerre, la criminalité, les génocides et voire des pillages méthodiques. Nous pouvons donc dire que dès le XVIe siècle, il y a une nouvelle forme de délinquance qui émerge et qui se distingue des normes traditionnelles pour se situer dans un nouvel espace, le monde. Caractérisons désormais l'idée même de la criminalité. Vous le savez tous, il existe trois types de criminalité durant l'Ancien Régime, le crime de lèse-majesté divine, la lèse-majesté humaine et le crime contre les particuliers. C'est ce dernier cas qui nous intéresse tout particulièrement. C'est donc les crimes contre les particuliers, en sachant que les actes violents reculent globalement au XVIe et XVIIe siècle, également au XVIIIe siècle, en général au profit du vol, et la délinquance va s'organiser sous forme de bandes armées. Autrement dit, en un réseau structuré et hiérarchisé. Mais qu'en est-il dans le reste du monde, ce nouvel espace que nous venons de définir? Si nous mettons de côté notre appréhension européocentriste de l'histoire, qu'en est-il de cette criminalité en réseau? On va donc continuer à élargir cette définition, du moins sur le plan géographique, tout comme cette patine d'étude. Et prenons un exemple. Premier exemple, au Mexique, pour l'Inca, l'indigène. L'espagnol n'est-il pas perçu comme un acteur d'une criminalité organisée, une criminalité structurée et planifiée au niveau d'un État guerrier, à savoir la monarchie catholique? Autre exemple, au Brésil, avec les Amérindiens. les chasses à l'homme qui sont organisées par des bandes armées portugaises pour réduire en esclavage les Amérindiens ne sont-elles pas une forme de criminalité internationale en réseau ? Enfin, dernier exemple en Chine. Avec la venue du père jésuite Matteo Ricci, qui était missionné pour évangéliser les peuples sans les expulser de leur culture, comme dit Claude Lard, eh bien, cette venue n'est-elle pas une forme de criminalité spirituelle internationale en réseau par la présence internationale des jésuites, leur organisation, leur réseau, leur puissance et leurs volontés évangélisatrices ? Certes, alors, nous approchons ici des grandes notions du phénomène de criminalité internationale mise en réseau avec une approche contemporainiste et avec une grille de lecture qui est basée sur nos valeurs du XXIe siècle. Ce qui nous apparaît, nous, Européens, comme un simple fait historique, comme une conquête, comme la conquête de l'Amérique, comme un simple événement historique, comme la présence d'un jésuite en Chine, eh bien peut être en réalité perçu par l'autochtone comme un traumatisme profond, un crime pour autrui. Alors il ne nous appartient pas ici de faire ces grands procès de l'histoire, jugés à l'aune de nos principes. D'autres formes de criminalité internationale en réseau existent durant l'Ancien Régime, des crimes qui collaient et qui collent aujourd'hui encore à notre perception occidentale de la criminalité internationale en réseau. Alors ce que nous pouvons appeler par anachronisme cybercriminalité, eh bien n'emprunte pas, on s'en doute, un réseau de fibre optique, mais des compagnies maritimes. Elle ne connaît pas non plus l'instantanéité et l'interconnectivité, mais elle mobilise de grandes capacités de réseaux sociaux sur des distances bien plus périlleuses que de nos jours. Ce que nous considérons aujourd'hui comme des difficultés techniques représentait alors des avantages. Savoir se perdre, savoir disparaître, se faire oublier pour mieux émerger ailleurs. Elle mobilisait plus encore qu'aujourd'hui les capacités intellectuelles de ces criminels, car le temps et les distances devaient stimuler leur esprit d'initiative, d'anticipation, de calcul de scénarios possibles pour pallier à toutes les éventualités. Ces cybercriminels de l'époque devaient être des hommes doués et talentueux pour naviguer sur des lignes maritimes, parfois imprécises, au péril de leur vie, pour prendre des contacts avec des inconnus, à la langue et à la culture parfois radicalement différentes et pour mener à bien leurs opérations. Ils apparaissent également particulièrement isolés. Mais malgré ces difficultés techniques, dès la découverte des nouveaux mondes, eh bien, des criminels ont vu dans ces nouveautés le moyen de s'enrichir. Sans porter de jugement sur ce que nous considérons aujourd'hui comme des crimes, à savoir comme la traite négrière, la disparition des Amérindiens, la colonisation impérialiste, des opérations scélérates sont menées individuellement, mais aussi parfois relayées au niveau mondial grâce à l'interconnexion des mondes qui s'opèrent au sein de la monarchie catholique, par exemple, ou au sein des colonies françaises, du Canada, des Antilles et de la Guyane, si proches elles-mêmes des possessions britanniques et hollandaises. Comment ne pas envisager, vu cette configuration internationale, une perméabilité des crimes dans les colonies ? Alors au contraire, la proximité des mondes dans cette carte d'Europe modifiée, importée en terra incognita, permet avec plus d'aisance la fuite, l'escroquerie, les violences, les délinquances. Un flibustier, un corsaire, ses prises et ses repères ne sont-ils pas un délit en bande organisée ? Comment concevoir ces opérations sans des structures internationales à même de permettre le ravitaillement alimentaire, les réparations des navires, la fourniture de munitions, des munitions si précieuses et si comptées dans les colonies, et la revente des produits de saisie. Il est tout à fait concevable à cette époque qu'un ostensoir en or volé au Pérou soit refondu à Mexico, le lingot transformé en Espagne pour devenir vaisselle royale à Versailles et offerte en présent au grand ambassadeur de la Porte en 1669. Comment retrouver à cette époque, pour l'historien, la circulation du bien volé, ses transformations, les routes navales et terrestres empruntées et l'utilisation d'un réseau. Des questions donc très actuelles, même pour l'historien, de traçabilité, de sécurité des biens, des réseaux criminels connectés se posent donc d'ores et déjà à cette époque. Quelles réponses, solutions et éventuellement sanctions ont été apportées par les hommes et les États ? Cherchait-on à lutter contre et par quels moyens ? Je voulais donc, mais je crois que le temps risque de m'être compté, vous évoquer la piraterie, qui était un des phénomènes des plus globalisés en matière de criminalité à l'époque. Alors, donc, qui était donc cette piraterie, qui est cette incarnation du sang, de la poudre, de la saveur brûlante du rhum des tropiques, un drapeau noir claquant au vent. Mais son histoire, cette histoire de la piraterie, rappelle de troublantes similitudes avec les cybercrimes contemporains. Pour conclure, ce chaos d'absence de justice et d'équilibre, ce lieu de ferment de criminalité qui est devenu le monde à partir du XVIe siècle, j'aimerais vous lire une très brève description d'une virulence inouïe de Doranza de Carranza, conquistador du XVIe siècle. Je le cite, « Ô Inde, chaos truffé d'obstacles, maquereaux de fainéants, banques où tous font faillite, dépôts de mensonges et de tromperies. Ô Inde, quelques qualités collées à la cire, épinglées avec des aiguilles, jouets des vaniteux, ascension des gens inconstants et sans vergogne, experts en escroquerie. Ô Inde, trafic et confusion. » Comment ne pas conclure par la confirmation de l'existence polymorphe et mondiale d'une criminalité devenue internationale et en réseau dès l'Ancien Régime ? Voilà, dans l'espoir d'avoir introduit quelques doutes sur la contemporanéité et la perception du phénomène de cybercriminalité que vous étudiez, je me réjouis d'avoir eu l'honneur d'ouvrir donc votre réflexion à des notions anciennes de globalisation tant géographique et historique que disciplinaire. Je vous remercie.